Vous êtes sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Cinquième émission de Feuilles Vives et premier épisode d'un mois d'août sous le signe des festivals ruraux. Retour aujourd'hui sur le festival pluridisciplinaire H2O qui s'est déroulé tout au long de la vallée de la Cisse au printemps dernier. Nous nous rendrons ensuite au festival de musique classique Va jouer dehors qui prendra ses quartiers dans divers lieux emblématiques du sud de la Loire à partir du 15 août prochain. Avec le festival H2O de l'association Art et 6. Pendant 6 week-ends, du 20 mai au 25 juin, expositions, performances et autres spectacles ont émaillé la vallée de la rivière 6, de ses premiers méandres à Averdon jusqu'à Vernoux-sur-Brenne, à quelques encablures de son embouchure finale dans la pétillante commune de Vouvray. Ouverture au monastère du Carmel à Molineuf par un bel après-midi de mai, le pianiste François-René Duchâble et le comédien Alain Carré font alterner musique classique et textes poétiques autour des femmes de l'eau, le thème de cette deuxième édition du festival H2O. L'ambiance intime de la chapelle du monastère, au contact d'une nature gazouillante, donne tout son relief à ce spectacle oscillant entre gravité et légèreté.
Quand j'ai besoin de bleu, de bleu, de bleu de mer et d'outre-mer, de bleu de ciel et d'outre-ciel, de bleu marne, de bleu céleste. Quand j'ai besoin profond, quand j'ai besoin altier, quand j'ai besoin d'envol, quand j'ai besoin de nage, et de plonger en ciel et de voler sous l'eau, quand j'ai besoin de bleu pour l'âme et le visage, pour tout le corps lavé, pour ondoyer le cœur, quand j'ai besoin de bleu pour mon éternité, pour déborder ma vie, pour aller au-delà, rassurer ma terreur, pour savoir qu'au-delà, tout reprend de plus belle. Quand j'ai besoin de bleu, l'hiver. Quand j'ai besoin de bleu, la nuit. J'ai recours à tes yeux.
Alors c'est une complicité de plus de 20 ans avec François-René Duchâble, le pianiste, où on travaille vraiment beaucoup nos enchaînements ou les superpositions de poésie sur musique, un peu comme une chanson, à savoir que la poésie et la musique ont souvent été liées depuis que la langue et la musique existent. Et c'est un travail que nous faisons vraiment dans le détail, en soignant bien nos enchaînements pour qu'il n'y ait pas d'applaudissements entre les différentes pièces et que tout s'enchaîne un petit peu comme si on assistait à une seule pièce théâtrale, musicale, poétique. Voilà, donc on part toujours du canevas du texte et puis on choisit les musiques et on travaille ainsi cette complicité entre la poésie et la musique.
C'était le comédien Alain Carré qui, avant d'aimablement répondre à nos questions, interprétait Bleu de Bleu du poète belge du XXe siècle Jean Maugin. Cette science des enchaînements entre poésie et musique capte l'attention du public sans jamais la lâcher. Des extraits courts, le mélange des genres artistiques permettent de rendre la musique classique plus digeste, plus accessible aux non-initiés. Et c'est là l'un des objectifs de ce spectacle. Le pianiste virtuose François-René Duchâble connaît une brillante carrière internationale avant de se consacrer entièrement à la diffusion de son art dans des lieux insolites et auprès de publics différents. On le trouve alors accompagné tantôt d'un comédien, tantôt de nageuses synchronisées, de cavaliers en parade ou même de feux d'artifice.
Ça n'apporte pas forcément grand-chose à la musique, mais par contre, ça apporte au public une nouvelle écoute de la musique, c'est-à-dire que un public différent du public classique habituel, qui d'ailleurs boude de temps en temps nos spectacles, et même souvent, ne nous suivent pas nécessairement. Le public classique a besoin du confort d'une salle fermée, d'un auditorium, sans bruit parasite, avec un beau son, etc. Et un confort des sièges, etc. Mais pour les publics non habitués à la musique dite classique, eh bien pour eux c'est une révélation justement de l'écouter, d'associer la musique avec des images, donc les couleurs, des éclairages, un lieu de nature, les oiseaux, les canards, que sais-je, enfin bon, et d'associer aussi avec les textes, parce qu'on raconte une histoire. On raconte des morceaux d'histoire qui sont rattachés les uns aux autres. Donc ça apporte simplement on rend la musique plus accessible à des gens qui en ont peur. Aussi, grâce au truchement, des séquences courtes. C'est la grande différence. Au lieu de jouer une sonate en trois mouvements, en trois pièces qui est rattachée, où on applaudit au bout de 20 minutes, ou une grande pièce comme les symphonies, les concertos sont des pièces longues, 30 minutes, 35 minutes, ben nous, on joue 1h30, 1h40, voire 1h50 sans entracte. On arrive à capter l'attention du public, sans applaudissements. Mais le public... dans l'ensemble, c'est l'impression que j'ai, en général, ça, depuis plus de 20 ans, ça marche, le public garde son attention, et si, par hasard, il s'ennuie, car c'est humain de s'ennuyer, il s'ennuie par exemple dans la musique. Il se dit, le public, l'individu qui s'ennuie, il dit, tiens, vivement que le comédien nous raconte une histoire. Après, il y a ceux qui préfèrent la musique, ils disent, oh ben le comédien c'est bien gentil, il nous raconte un texte, vivement que le pianiste rejoue. Et finalement, quand on passe de l'un à l'autre, ben, ça passe beaucoup mieux.
D'accord, et pourquoi c'est important pour vous d'amener la musique classique à un public qui n'a pas l'habitude ou pas envie d'en écouter d'habitude?
Ben je dirais pourquoi ça n'est pas important pour les autres musiciens. C'est pour ça, moi je réponds en disant, mais pourquoi les autres ne le font pas, globalement? Bon, ils ne le font pas déjà parce que souvent c'est plus rentable de rester dans son petit laboratoire musical international où, certes, on touche des milliers de personnes, mais c'est un rituel un peu figé et c'est un système de carrière qui est quand même assez rigoureux et assez enfermé hein, sur soi, malgré des ouvertures par la télévision, le cinéma, etc. Bon, pourquoi pour moi c'est important? D'abord, c'est mon plaisir, mon plaisir de jouer dans des lieux insolites. Deuxièmement, de dialoguer justement avec les textes. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi c'est important? Parce que c'est normal qu'un artiste cherche à s'adresser à un maximum de gens ou un maximum de gens divers. Différent. Parce que finalement, dans ce nouveau type de spectacle, je touche plutôt moins de monde que si j'étais resté dans les circuits classiques. Les circuits classiques, c'est 1 ou 2% de la population dans nos contrées occidentales. C'est-à-dire que c'est un échec culturel cuisant. Mais c'est 1-2%. Actuellement, avec ces spectacles, on touche peut-être 0,5 ou 0,3% des gens. Mais c'est ceux que je souhaite toucher, c'est-à-dire des publics différents.
Dans ma rue, il y a deux boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, et dans l'autre, on vend du lait. Bon, la première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où on vend du lait. Et c'est pourquoi les badauds la montrent du doigt en disant « Ah, qu'il est beau le débit de lait !»« Ah, qu'il est laid le débit de l'eau !»« Débit de lait si beau, débit de l'eau, s'il est un débit beau, c'est bien le débit de lait. » Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ah, ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé. Mais l'on maudit le lent débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby aussi. Babé et ses bidons vidés les envoient sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons. Tous les bidons d'eau sont débits, allez donc. Tous les bidons d'eau sont débits, allez donc. Dans ma rue, il y a un mariage, si. Celui du beau Bobby et de la belle Babé. Le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Ils ont repeint leur boutique en blanc et chacun dit en y allant, oh, qu'il est beau le débit de lait. Ah, mais quel palais de débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau, palais de chile, débit de l'eau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau et Babé de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits s'unis font le plus grand, le plus joli des beaux débits. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé. Ah oui, mais Bobby garde pour lui les deux plus beaux bidons de lait de la Babé jolie. Et maintenant, si vous y alliez, vous entendriez de joyeux papis de deux beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons doivent être de la maison. Tous les bidons doivent être de la maison. Ils se battent à coups de goupillon chez Bobby et chez Babé. Allez donc.
Thank you.
Le débit de l'eau et le débit de lait de Charles Trenet, lu par Alain Carré, suivi d'un extrait de l'opus 9 du Carnaval de Robert Schumann, une pièce composée au milieu du 19e siècle, interprétée par François-René Duchâble, puis, par souci de qualité sonore, par Michelangeli Lugano, dans un enregistrement public de 1973. L'organisatrice d'H2O, la plasticienne Isabelle Darrocha, habite Molineuf. À l'instar d'autres communes riveraines de la Cisse, comme Orchèze, Chambon ou Chouzy, Molineuf doit l'essentiel de sa vitalité démographique à la proximité géographique de Blois. C'est ce qu'on appelle la rurbanisation, qui désigne l'expansion de communes rurales du fait du dynamisme économique d'un centre urbain proche. Il s'agit d'un phénomène différent de la périurbanisation qui concerne des communes comme La Chaussée-Saint-Victor ou Vineuil. L'expansion se fait ici dans la continuité de l'aire urbaine blaisoise. Dans une commune rurbaine, une bonne partie des habitants ne sont que faiblement attachés à leur territoire, dont ils n'ont qu'une connaissance que très superficielle. Ils ne sont là, après tout, que pour pouvoir se rendre rapidement à leur travail, en ville, tout en habitant à la campagne. Des ruraux, de fait, avec des mentalités et une culture urbaine. Avec son festival à la fois culturel et environnemental, Isabelle Darrocha souhaite aussi faire découvrir la richesse de la vallée de la Cisse, souvent ignorée de ses propres habitants. Faire émerger la part de ruralité qui est en eux, on l'écoute.
L'association a pour but en effet de défendre l'environnement, l'eau, plus particulièrement l'eau, la culture et de valoriser le territoire de la vallée de la Cisse qui est assez méconnu. L'autre raison du festival, c'est également on vit dans un milieu particulièrement urbain, de plus en plus, on est de plus en plus nombreux à aller vers la ville. Et là, l'idée, c'est de ramener l'urbain vers la nature, vers ses sources.
Pour Isabelle Darrocha, l'objectif est non seulement de rendre la culture plus accessible en milieu rural, mais aussi de mettre en valeur l'identité d'un territoire. Les spectacles, expositions et performances présentés dans le cadre d'H2O sont aussi un prétexte pour faire découvrir le patrimoine architectural et paysager de la vallée de la Cisse. Monastères, moulins, maisons troglodytes et exploitations viticoles font partie des lieux visités cette année. Après le Carmel de Molineuf, le festival H2O remonte la Cisse sur une vingtaine de kilomètres pour poser ses valises dans la commune d'Averdon à la ferme des Petits Tressauts. La rivière trace ici ses premiers méandres au cœur de la Petite Beauce où se mêlent cultures céréalières, marais et prairies humides. C'est ici qu'Olivier Gabillot élève ses vaches Highland, une race écossaise peu présente en France, mais parfaitement adaptée aux zones humides. Olivier rameute quelques dizaines de curieux dans la cour de sa ferme pour démarrer la visite.
Olivier Gabillot, l'éleveur de la ferme des Petits Tressauts, avec Blandine et les enfants, parce que tout le monde s'implique sur la ferme. Donc c'est une ferme, il y a une centaine d'hectares, avec une vingtaine d'hectares de marais, comme cela. Ensuite il y a une quinzaine de vaches Highland, avec tous les jeunes qu'on fait grandir, et donc ce qui fait environ 70 animaux en ce moment. Ensuite on a une vingtaine de brebis, et puis deux truies, voilà. Donc les Highland, pourquoi les vaches Highland? On cherchait un moyen d'entretenir toutes les zones humides sur la rivière. Et donc on a trouvé ces animaux-là très rustiques, de petite taille, pas très lourds, donc qui pouvaient bien s'adapter à ces milieux-là. On a démarré avec deux vaches en 2004. Rapidement, il y a eu le contrat de bassin sur la Cisse qui a été mis en place pour répondre aux objectifs européens de bonne qualité d'eau. Et donc dans ce cadre-là, il a été mis en place des mesures de restauration et d'entretien des zones humides. Il perturbe. On va se décaler un petit peu. Parce que ça, c'est pour ce soir.
À quelques mètres de là, sur la scène de fortune installée dans la grange, le collectif Rouge Rouge 3 effectue ses derniers réglages en vue du spectacle de ce soir. Le Nautibus Tour, une interprétation moderne des 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, sous forme de comédie musicale loufoque. Un peu plus loin, à l'abri du vacarme, une dizaine de bêtes ruminent paisiblement.
Voilà, comme ça, on l'envoie. Il y en a qui sont là, des Highlands.
les premières vaches, c'était pas pour la nourrir.
Donc l'objectif au début, c'est on cherchait, mais par passion, hein, on cherchait un moyen d'entretenir les zones humides qui se boisent par les saules. Ah, parce que bon, tous les marais, jusque dans les années 50-60, ils étaient fauchés. Les paysans, chaque paysan avait son lopin de... Enfin Guy, toi t'as peut-être connu un peu, non? Chaque paysan avait son lopin de marais qu'il allait faucher tous les ans, il taillait les saules en même temps, enfin il y avait un entretien quoi. Ça a disparu, donc les saules ont commencé à se développer et à étouffer les roselières et à fermer les milieux quoi. Donc nous on a cherché un moyen, mais par passion, hein, et donc on a trouvé les Highlands et on a rentré les deux premières vaches en 2004. Donc le contrat de bassin est arrivé là-dessus pour répondre aux objectifs de bonne qualité d'eau. Donc mesure de restauration d'entretien. Et donc à partir de là, on nous a demandé si on souhaitait entretenir les parcelles avec les vaches. Donc forcément on y allait et là on a développé un petit peu les troupeaux. Et puis au bout de quelques années, on s'est trouvé avec des jeunes qui étaient bons à être consommés. Et là, on a commencé la vente directe à la ferme.
C'est originaire d'Écosse?
Oui, originaire, oui, je vous en ai pas parlé. Oui, c'est des animaux qui sont originaires d'Écosse. Ouais. Donc des animaux
voilà, qui sont...
Voilà. Alors ça, c'est bien plus facile pour eux l'hiver que l'été. Quoi. C'est l'été qui peine le plus. Alors bon, dans les marais, c'est l'avantage des marais, c'est que l'été, ils ont de l'eau et ils ont de l'ombrage. Donc ça les aide à passer les périodes chaudes comme on a eu cette semaine. Quoi. Là, quand c'est comme ça, bah, comme les bœufs, là, ils sont sous la haie, ils bougent pas. Hein. Toute la période, quand il fait très chaud, ils bougent pas, ils se couchent, ils attendent. Oui. Ils attendent que ça se passe.
Ils ont toute l'année dans les prairies, alors soit en bas, soit
et
en haut.
Voilà. Donc les coteaux qui sont là, on les utilise donc là pour faire du foin, on va faire du foin. Et puis après, on les met à pâturer là-dessus tout l'hiver. Et là, on les approvisionne en foin l'hiver. Voilà.
Très polluant à l'échelle industrielle, l'élevage devient écologiquement bénéfique lorsqu'il est pratiqué de manière extensive. Au petit tressau, l'entretien des zones humides par les vaches empêche ces parcelles d'être envahies par les saules, ce qui permet d'accroître la biodiversité. Une grande variété de plantes améliore la qualité de l'eau en filtrant mieux les produits chimiques qui ruissellent des champs voisins. Et, signe d'un milieu naturel en bonne santé, les oiseaux migrateurs reviennent chaque année plus nombreux sur cette portion de la vallée de la Cisse.
Donc les vaches Highland, elles sont arrivées en 2004 parce qu'on cherchait un moyen d'entretenir les marais qui se boisaient naturellement par un manque d'entretien. Et donc on a découvert les vaches Highland dans différents points de la France. Et donc on a introduit nos deux premières vaches en 2004. Et ensuite, grâce à la mise en place du contrat de bassin sur la Cisse, qui est la petite rivière de plaine qui traverse la ferme, grâce au contrat de bassin et à la classification de la zone en zone Natura 2000 pour la préservation d'une vingtaine d'espèces d'oiseaux, il a été mis en place des mesures d'entretien et de restauration des marais, des zones humides, et dans lesquelles on est rentré pour assurer l'entretien des marais avec les animaux.
Donc vos animaux sont à la fois sur vos terres et sur d'autres terres
Voilà, donc à la fois sur la ferme et sur des terres communales, enfin des marais communaux, des marais qui appartiennent aussi à des particuliers qui souhaitent voir entretenir leur milieu. Bah, nous, on a une commune qui s'est rapidement investie là-dedans pour l'intérêt de tous, hein, que ce soit pour l'intérêt de l'ensemble des citoyens, mais aussi ceux qui sont passionnés de chasse et même de pêche. Voilà, donc ça, voilà, c'est dans l'intérêt de tous, hein, de maintenir en l'état ces zones naturelles, que ce soit même après pour la faune et la flore. Ça... Bon, puis il y a de la part de tout le monde un intérêt... Des milieux naturels, quoi. L'idée de conserver tous ces milieux avec toute la diversité, c'est...
D'accord, parce que
ça le vent en poupe un peu.
Le fait d'avoir des vaches dans des marais, bon. Ça va aussi attirer des oiseaux, comment ça
voilà.
fonctionne?
Bah, on va maintenir ouvert, grâce aux ruminants, on va maintenir ouvert des milieux qui avaient tendance à se refermer. Et en ouvrant les milieux, on accueille plus facilement les oiseaux, les insectes, enfin toute la faune et la flore. on permet à des plantes, à certaines plantes, de retrouver une place dans le milieu. Voilà.
D'accord. Et du coup, c'est sur ces terres communales, vous les partagez avec qui ? Avec les chasseurs,
les pêcheurs ? Avec les chasseurs.
Comment ça se passe ?
Voilà. Donc, en période de chasse, les parcelles qui sont désignées pour la chasse, on retire les animaux le samedi soir. Et comme ça, les chasseurs peuvent chasser le dimanche. Et puis, donc, on réouvre les portes le lundi matin pour que les animaux puissent retourner sur les parcelles. Voilà. Bon, c'est des compromis qu'on avait trouvés avec tous les acteurs de ces milieux-là, hein, que ce soit les naturalistes, les chasseurs, l'éleveur, même les pêcheurs dans certaines zones. Voilà, on avait réussi à trouver des compromis et ça se passe très bien.
Ça arrange tout le monde.
Voilà, ça arrange tout le monde. Oui, ça arrange tout le monde.
Olivier Gabillot commence à travailler à la ferme de ses parents en 1989. Le système d'exploitation est alors ce qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire qu'il repose sur l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires chimiques, sur une production intensive et des circuits de commercialisation longs. Aujourd'hui, la ferme repose sur l'élevage extensif, sur l'autoproduction des aliments des bêtes et sur la vente directe aux consommateurs. L'agriculteur peut alors réduire ses coûts de fonctionnement et augmenter ses marges, soit maintenir son revenu tout en réduisant sa production et donc son impact sur l'environnement. Pratiques agricoles vertueuses et ventes directes, ces piliers de l'exploitation d'Olivier sont l'occasion de communiquer les avantages de ce système au public. Un moyen de réduire l'isolement des agriculteurs, jusqu'ici coupés de leurs consommateurs par les circuits commerciaux longs avec de nombreux intermédiaires. En organisant des journées portes ouvertes, des visites scolaires ou en accueillant des événements culturels comme aujourd'hui, Olivier espère résorber cette rupture entre producteurs ruraux et consommateurs urbains.
Pour nous, c'est un moyen de faire connaître ce qu'on fait auprès de ceux qui veulent, ceux qui le souhaitent, quoi. Voilà, on est très... On souhaite informer la population de ce que l'on fait, quoi. C'est...
Pourquoi et comment ?
Pourquoi ?
Vous souhaitez informer la population et comment vous le faites ?
Pourquoi ? Pour montrer qu'en agriculture, il n'y a pas que du mauvais. Parce que bon, on juge à l'heure actuelle beaucoup l'agriculture sur son activité et les conséquences sur l'eau, sur la biodiversité. Mais bon, voilà, il y a quand même des gens qui font des efforts. Et je crois que l'agriculture est en train de connaître un tournant. Et enfin. Prends conscience qu'il faut, tout en produisant, préserver le milieu dans lequel on vit. Alors, il y a des gens qui sont plus ou moins convaincus.
Et voilà. Comment vous faites pour informer les gens, pour les faire venir pour...
Donc, nous, on a une clientèle... on a une clientèle à qui on offre une porte ouverte... quasi tous les ans pour découvrir les animaux autrement que dans la caissette qu'ils viennent chercher de temps en temps. Quoi. Ça nous permet de bien leur expliquer notre façon de faire et de leur montrer sur le terrain notre façon de faire, notre façon de travailler. Quoi.
D'accord.
On n'a rien à cacher, hein, on a tout à montrer, tout à faire connaître. On ouvre les portes en grand pour que les gens découvrent.
Est-ce que vous parliez tout à l'heure de l'image des agriculteurs, est-ce que vous sentez une certaine rupture entre les milieux urbains et les consommateurs et l'agriculteur ? Est-ce que c'est justement aussi pour ça que...
Il y a une rupture par la création des intermédiaires. C'est les intermédiaires qui ont fait la coupure entre le producteur et le consommateur finalement. Voilà. Et ensuite, les producteurs se sont mis à produire en fonction de ce que leur demandaient les intermédiaires. Voilà. Après, on peut pas. Ensuite, quand il y a maintenant qu'il y a des problèmes environnementaux ou autres, on peut pas reprocher qu'aux producteurs des conséquences de tout ça. Quoi. Le producteur n'est pas seul le responsable. Il y a la demande qui a été créée par un certain nombre d'intermédiaires. Qui est aussi la cause de tous les problèmes qu'on peut rencontrer.
Donc la vente directe, c'est un moyen à la fois de reprendre la main sur son système et de recréer du lien
avec le consommateur. Voilà.
D'accord.
Et de retrouver un climat de confiance entre le producteur et le consommateur.
Qu'est-ce que vous faites ici dans votre système que vous faites parce que vous êtes en vente directe et que vous ne pourriez pas faire si vous travaillez avec des intermédiaires ?
travailler de façon extensive. On ne pourrait pas travailler de façon extensive comme on le fait dans un système de filière longue. Parce qu'en filière longue, il faut faire des gros sacrifices financiers pour avoir des prix bas aux consommateurs. Et pour avoir des prix bas, il faut des productions intensives. Et voilà, donc avec toutes les conséquences, toutes les conséquences qu'on connaît en matière d'environnement. Quoi.
Et de qualité de...
Et de qualité de viande derrière aussi. Mais produire en filière longue un bœuf de 4 ans, c'est même pas la peine de démarrer. Quoi. Alors que vous arrivez à le valoriser en vente directe avec des prix finalement tout à fait convenables pour consommateurs.
Et parce que l'intérêt des intermédiaires, c'était de trouver une clientèle toute faite. Comment est-ce que vous avez construit cette clientèle en vente directe ?
Bouche à oreille, voilà. En sachant qu'on a démarré en vendant un bœuf sur une année. Le premier bœuf, c'était en 2007 ou 2008, voilà.
D'accord.
Donc on a vendu un bœuf dans l'année, et puis après on en a vendu deux, et puis après c'est monté tout doucement comme ça, tranquillement.
D'accord, parce qu'il y a eu une conversion entre un ancien système...
Voilà, on était sur un système tout à fait conventionnel, que ce soit en culture et même en élevage de volailles. Hein. Et voilà, et on sort tout doucement, enfin oui, on sort tranquillement de ce système-là, parce qu'on ne peut pas s'arracher comme ça d'un seul coup. Économiquement, il faut quand même que la ferme vive. Donc... Bon, maintenant, au niveau culture, voilà, le pas est franchi. On produit maintenant quasi exclusivement le fourrage et le grain nécessaire à l'alimentation des animaux. Bon, il y a encore la production de labels rouges qui reste dans un système de filière longue. Mais bon, notre objectif, c'est de se défaire de ce système pour produire uniquement la volaille nécessaire à la vente directe.
D'accord. Et voilà. À quelle échéance vous pourrez passer comme ça en 100%
Je ne sais pas, assez rapidement, hein, dans les 5 ans, je pense que ce sera fait. Quoi. Okay. Parce que bon, on est également en réflexion sur l'installation des enfants. Voilà.
Ils n'auraient peut-être pas accepté de travailler dans une ferme intensive.
Bah, disons qu'ils n'ont pas connu le système conventionnel pleinement. Ils ont été assez rapidement baignés dans la filière courte. Donc voilà, maintenant ils ne voient pas aller autrement que comme ça maintenant.
Feuilles vives, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Ce mois-ci, nous explorons la fonction d'interface ville-campagne que peuvent avoir les événements culturels comme le festival H2O. D'une part en assurant une diffusion rurale de formes culturelles traditionnellement urbaines, et de l'autre en conduisant des populations urbaines à mieux connaître les territoires ruraux qui les entourent. Dans 15 jours, ce sera au tour du festival Va jouer dehors de faire la une de Feuilles vives. L'équipe de l'émission sera d'ailleurs présente lors de la journée de clôture de ce festival. C'est dans un peu plus de 2 semaines, le dimanche 27 août, au théâtre du Grand Orme à Fin. On espère vous y trouver nombreux.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers. Elles font tout en larmes à chaque coup de feu d'une arme.
Les charrues,
les chariots,
les chemises et les chevaux tombent en rade. Quelle salade à chaque coup de claironnade.
Ensoleillé,
avec son seigle, avec son blé semé.
Quelle belle vallée, avec ses chênes, ses châtaigniers, avec ses frênes, ses peupliers plantés.